It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre, à vous abonner également, ce dont je vous remercie. Vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions de Conflit sur notre site internet ainsi que nos podcasts. Et c'est cette semaine notre 200e podcast. Nous avions commencé en 2016. Depuis 2019, nous avons un rythme hebdomadaire. Donc vous avez 200 émissions d'archives à retrouver sur notre site pour accompagner notamment vos vacances et vos trajets en voiture pour ceux qui partent ou qui reviennent de vacances. Et nous poursuivons cette série d'été. Une première série d'été début juillet était consacrée à la philosophie politique et notre deuxième série d'été est consacrée à l'Asie. Nous allons vous emmener dans ce continent qui est extrêmement vaste et varié. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire également. Et je vous propose cette semaine un voyage en Asie, un voyage au sens propre, puisque mon invité Charles-Antoine Schwerer a réalisé un voyage de plus d'un an avec son épouse, Entre les plis du monde, c'est le titre de son ouvrage, Entre les plis du monde, chronique sur les hauteurs de l'Asie, qui est paru chez Alizio. Comme chaque semaine, toutes les références des ouvrages sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Charles-Antoine Schwerer, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes parti fraîchement marié avec votre épouse pendant plus d'un an, 18 mois je crois, du Caucase jusqu'à sur les hauteurs de l'Himalaya et vous revenez et vous avez consigné une partie de ce voyage dans cet ouvrage qui est une sorte de carnet de voyage, un carnet de voyage un peu original parce que vous êtes parti aussi avec des auteurs et avec des livres que vous citez d'ailleurs au cours de cet ouvrage. Donc on croise à la fois ce que vous avez rencontré, vos réflexions aussi sur l'Asie aujourd'hui, et puis des extraits d'auteurs. Comment vous avez choisi ces auteurs qui vous ont accompagné avant, pendant et après le voyage?
Alors on a essayé en fait à chaque fois qu'on allait dans une tribu, dans un peuple un peu difficile d'accès, d'être accompagné par en fait le premier ou l'un des premiers explorateurs, missionnaires, ethnologues qui avaient été dans cet endroit-là et qui évidemment avaient consigné quelque chose, parce qu'il y en a sûrement qui ont été sans en parler. Et du coup, disons que la démarche qu'on avait en permanence, c'était d'essayer d'aller voir donc des peuples, des tribus, des communautés, on les appelle un peu comme on veut, relativement isolés ou le plus isolé entre guillemets possible, et toujours d'avoir une logique un peu comparative. Donc en fait, on lisait en permanence les récits ou les traités, les travaux ou autres qui étaient disponibles sur ces peuples-là. Et à chaque fois, on comparait ce qu'on pouvait voir devant nous et évidemment ce qu'on lisait le soir, la journée, dans ces textes-là. Donc disons qu'on les a choisis parce que c'était souvent les premiers à avoir été, et donc c'était en fait très souvent des missionnaires. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans cette partie du monde où les premiers aventuriers européens ou occidentaux qui ont été là-bas étaient des missionnaires.
Des MEP notamment, Mission Étrangère de Paris.
Notamment, mais pas que. En fait, souvent ça a commencé un peu avant les MEP, c'est-à-dire que parfois vous avez des missionnaires du 13e ou du 14e siècle, quoi. Parfois, ça remonte quand même très loin. Et ensuite, oui, il y en a quand même beaucoup, c'était les MEP. Et puis après, ce qui est vrai, c'est qu'on avait ces travaux-là. On avait aussi parfois des travaux d'ethnologues. Donc là, c'est des choses beaucoup plus fraîches. Ça va être plutôt à partir du 20e siècle dans ces cas-là. Hein. Voilà, on faisait une sorte de croisement entre toujours nos lectures et nos rencontres.
Quel est le voyage que vous avez suivi, enfin, d'où vous partez, où vous êtes arrivé et quelle route a été suivie?
Alors, il n'y a pas forcément une très très grande logique géographique. On est parti du Caucase, ensuite on a après été en Asie centrale, donc Kyrgyzstan, Tadjikistan. On est descendu au nord de l'Inde. Après, on peut considérer qu'on a fait une sorte de traversée d'ouest en est de l'Inde en passant par le Népal. Du coup, en Inde, il y avait vraiment deux coins très intéressants. Hein. C'est la partie complètement nord-ouest et la partie complètement nord-est, qui ne sont pas du tout indiennes. En fait, ce n'est pas du tout des cultures hindoues. C'est beaucoup plus proche soit de cultures tibétaines, soit de cultures vraiment, disons, tribales, enfin, ou tibéto-birmanes. Ensuite, on a été en Birmanie. On est remonté un petit peu par le nord du Vietnam et le nord du Laos. Et après, on a suivi l'ouest chinois, donc les parties, disons, nord-ouest du Yunnan. Et après, on est remonté sur Xinjiang, puis en Mongolie. Et après, on n'a pas pu avoir de visa pour la Russie. Donc, on a pris un avion et on a fini tout ça en Iran. Voilà, et donc le trajet, c'était pas non plus une sorte de traversée toute simple. On se laissait plutôt guider par les peuples qu'on voulait aller voir au fur et à mesure du voyage.
Comment on voyage justement en train, en avion, à pied?
Alors on voyageait principalement à pied et en transport en commun. L'idée n'était pas de faire un voyage, disons, complètement uniforme ou unidimensionnel, qui était par exemple que à pied ou que en vélo. En fait, c'était plutôt de réussir à chaque fois à aller voir certains peuples qu'on avait identifiés et qu'on voulait du coup rencontrer. Ce qui fait qu'on utilise en fait des transports en commun jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Disons que si vous voulez, la démarche d'ensemble, quand on arrivait à un endroit, d'abord on se plongeait dans les archives ou dans les travaux qu'on avait pour identifier le ou les peuples qu'on voulait aller rencontrer. Après, souvent à partir des derniers travaux d'ethnologue sur ce peuple-là, on découvrait la zone générale où ils étaient dans le pays. On allait vers cette zone, donc souvent jusqu'à une ville moyenne en transport en commun. Là, on essayait de trouver des renseignements pour savoir où se situaient en ce moment. C'est souvent des nomades, pas toujours, mais quand c'était des nomades, c'était ça l'enjeu. Où est-ce qu'ils avaient l'air de se situer en ce moment? Ensuite, on allait aller jusqu'au dernier village en stop ou à pied. Au dernier village, on récupérait encore des informations et puis on finissait à pied. Souvent, c'est entre 3 et 10 jours pour aller rencontrer le peuple en question.
Donc, ça suppose de voyager avec des livres et donc du matériel aussi, ce qui prend de la place et ce qui pèse.
Oui, alors ça, on a été sauvé par... alors, je ne suis pas très numérique et technologie, mais là, il faut avouer qu'on est vraiment sauvé par l'existence du Kindle, quoi, d'avoir une tablette. Et du coup, en fait, on avait tout simplement toutes nos archives en ligne et puis on pouvait lire autant qu'on voulait sur notre petite tablette.
Vous évoquez ces peuples. Ce qui est intéressant, ce que vous essayez de montrer dans l'ouvrage, c'est le rapport qu'ils ont à la fois à leur culture et aussi au monde nouveau, donc au fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent. Il y a aussi, ces peuples sont dans des états centrales, donc d'un côté il y a une volonté des états de centraliser et d'intégrer ces peuples qui peuvent être vus comme des dangers potentiels ou comme des sources d'irrédentisme ou de révolte, et l'autre aspect c'est aussi l'attrait de la modernité, d'une vie un peu plus agréable et facile dans les villes que à la campagne. Comment est-ce qu'ils font pour résister ou pour maintenir leur culture, et en même temps on peut comprendre aussi légitimement qu'ils aient envie d'avoir une vie matériellement plus agréable et confortable que ce qu'ils peuvent avoir dans des endroits très reculés.
Oui, c'est vraiment l'immense tension qui a traversé toutes nos réflexions pendant l'année, hein. C'est qu'on était donc en permanence en contact avec des communautés ou des peuples qui avaient une culture extrêmement forte et extrêmement diverse, donc des peuples avec le visage tatoué, des bambous dans le nez ou autre, ou des pratiques chamaniques très originales, ou tout simplement un mode de vie nomade, etc. etc. Enfin, à chaque fois, il y avait vraiment des identités extrêmement fortes. Et il y avait en effet une double tension. La première, c'est la tension, disons, des politiques publiques, qui est que dans les grands pays, type Inde, Chine, Birmanie, vous avez une politique centralisatrice et d'uniformisation culturelle qui est absolument phénoménale, enfin qui est extrêmement, extrêmement forte. Ça passe notamment par l'école. Et ça qui est très intéressant, c'est que nous, dans notre culture française, on a une vision un peu incontestable de l'école. Enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, moi, j'étais parti de cette année de voyage. J'étais parti pour cette année de voyage sans question spécifique sur l'effet de l'école, quoi. Et pour nous, c'est un peu vu comme un bien général. En tout cas, il n'y a pas forcément beaucoup de débat sur est-ce que l'école a trop d'impact ou autre, quoi. Et là, vraiment, dans tous les endroits où on a été, c'était toujours vu comme l'une des menaces principales de la part des anciens. Donc, dès que vous discutez avec une personne âgée, elle vous explique tout de suite que la menace pour la culture et pour la tribu, c'est l'école, parce que du coup, évidemment, les enfants, ils apprennent la langue majoritaire. Souvent, au collège, ils sont envoyés en pension. Et puis, quand ils reviennent de pension, la plupart du temps, les adultes nous disent c'est impossible de continuer à leur véhiculer notre culture. Ils sont devenus indiens, ils sont devenus chinois, ils sont devenus birmans. Et ils ne sont plus Chine, ils ne sont plus Apatani, ils ne sont plus Tibétains, quoi. Donc, il y a vraiment cette, l'école, c'est peut-être le moyen, peut-être politique le plus fort. Et puis après, il y a l'attrait de la société de consommation ou de la société moderne, qui est véhiculée évidemment par l'information. Et du coup, vous avez certains villages où Internet arrive, et puis 3 ans plus tard, on a l'impression que enfin, c'est ce que nous racontent les gens en tout cas, que pareil, les jeunes, les ados sont plus du tout intéressés par la culture de leur tribu, par l'histoire de leur tribu. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est vraiment fascinant, où on a l'impression que vous avez des peuples qui ont lutté pendant 50 ans contre, par exemple en Chine, on était dans une partie où il y a des peuples qui sont à la fois tibétains et catholiques, une sorte de double peine où ils sont donc des super opposants et ils sont assez mal vus, évidemment, des autorités centrales. Donc ils ont passé 50 ans à se battre, il y avait des martyrs, il y en a qui partent en exil, et puis on leur met Internet et on a l'impression qu'au bout de 2 ans, ça y est, tout le monde est modernisé, quoi.
Comment se passent les frontières? Est-ce qu'il y a des contrôles? Alors, vous racontez notamment en Chine, au Xinjiang, on va y revenir, où là, les contrôles sont assez incessants, mais est-ce qu'on passe, de manière générale, facilement les frontières avec un passeport suffit? Est-ce qu'il y a de longues files d'attente? Ça dépend aussi des lieux, je suppose.
Disons que ça allait. En fait, vous avez des frontières qui sont de toute façon un peu perdues et où du coup... Enfin, typiquement, quand on passait la frontière entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, on n'avait plus de visa parce qu'on l'avait perdu. Et puis en fait, de toute façon, le poste frontière, c'est une sorte de petite cahute en haut d'un col. Là, à cet endroit-là, les soldats tadjiks, ils habitent dans des espèces de je sais pas comment dire, de restes d'un vieux fort qui date de je sais pas quand. Et là, typiquement, vu qu'ils ont aucune connexion, vous inscrivez un faux numéro de visa sur leur papier et puis ils s'en fichent complètement, quoi. Donc il y a des zones comme ça où la frontière est vraiment très tranquille. Après, de façon un peu plus classique, voilà, il y a des zones où il y a un peu de corruption. Donc, par exemple, quand on est passé rapidement au Kazakhstan, on a eu quelques soucis avec ça. Et puis ensuite, disons qu'évidemment, le pays où c'est le plus complexe d'avoir un visa, c'est la Chine. Donc voilà, là, il faut s'arranger un peu, faire croire que vous êtes très riche et puis que vous allez dépenser beaucoup d'argent et ça vous aidera à avoir facilement votre visa.
Au Xinjiang, justement, alors c'est une région dont on parle un peu plus, peut-être depuis un an et demi, on évoque les cas de populations qui sont emprisonnées, etc. Vous évoquez la surveillance, notamment des cartes de CRS très très présents qui contrôlent la population, la politique des Han pour noyer les populations ouïghours dans la sinisation, et puis également des contrôles extrêmement importants, ce qu'on appelle notamment le contrôle social chinois avec les caméras, avec vraiment une société de surveillance qui semble extrêmement poussée.
Oui, c'est vraiment le sujet quand on voyage au Xinjiang, et puis ça paraît assez démentiel. En fait, pour vous figurer, donc dans les villes secondaires où il y a eu des révoltes, donc il y a notamment deux villes moyennes qui ont été un peu avec les plus fortes oppositions. Là, en fait, les villes sont absolument contrôlées, au sens où il y a une allée centrale, une avenue centrale, et sur la totalité des rues adjacentes, pour passer, il faut montrer son passeport, il y a une reconnaissance faciale, et puis donc ils vous reconnaissent et ils vous laissent passer ou pas, et comme ça permet aux autorités de contrôler la totalité des déplacements.
À chaque fois
Oui.
D'accord.
En gros, dès qu'on veut prendre une rue adjacente, on doit passer par un portique, on a notre sac qui est vérifié, enfin, c'est une sorte de camp généralisé, quoi. Et en plus, donc ça, c'est dans les deux villes les plus surveillées. Et puis après, même de façon générale dans la région, vous avez, pour entrer dans la totalité des lieux publics, des systèmes de reconnaissance faciale et de contrôle des passeports. Donc le public, c'est les marchés, les gares, les jardins, les gares routières, les grands centres commerciaux, etc., quoi. Donc là, typiquement, si vous avez un casier judiciaire non vierge, vous pouvez pas aller vous balader au jardin public. Donc il y a vraiment, et puis par exemple dans tous les bus on vérifie les sacs comme dans un aéroport, donc vous avez à l'entrée de chaque bus, pour les petits bus de ville, un policier qui a un détecteur de métaux puis qui vérifie les sacs des uns et des autres, pareil pour, enfin voilà, c'est disons que c'est vraiment une sorte de surveillance généralisée extrêmement forte. Il y a des commissariats partout et ça va avec évidemment une politique de, on peut probablement utiliser le terme d'éradication culturelle, qui est que vous avez par exemple une des plus anciennes mosquées de Khotan, une des villes là, avec une opposition assez marquée, a été rasée puis remplacée par un parking, quoi. Donc c'est vraiment très fort. Et à côté de ça, vous avez aussi des choses plus insidieuses. Donc typiquement, si vous avez une religion, donc là c'est surtout pour la religion musulmane, et que vous êtes pratiquant, donc quelqu'un qui va à la mosquée, il ne peut pas être employé par l'État chinois, par exemple. Donc vous ne pouvez pas avoir de poste de fonctionnaire ou autre, si vous êtes pratiquant. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand après, évidemment, on en parle avec, avec des Han qui sont là-bas, et qui, bon, c'est peut-être sans surprise, mais vraiment une espèce de... Enfin, il y a une sorte d'incompréhension totale entre notre vision et la leur, parce qu'il y a un matérialisme assumé qui, pour nous, est assez impressionnant, à savoir que la totalité des sujets, dès qu'on parle de la dimension culturelle ou du fait de supprimer une culture, etc., la réponse est toujours matérielle. Donc, on va toujours être de dire, mais regardez, les Ouïghours, leur revenu, il a augmenté de $200 par an en X années, du coup, c'est la bonne politique. Et ils sont quand même relativement informés sur les situations européennes parce qu'ils vont toujours nous faire des comparaisons en disant, typiquement, tel, alors ça serait les Gilets jaunes aujourd'hui, ça n'aurait pas eu lieu en Chine, etc. Quoi. Donc, il y a vraiment une surveillance généralisée qui est associée à une politique d'éradication culturelle. Et puis ça, on n'en est pas le témoin, mais apparemment, d'après beaucoup d'informateurs, qui est évidemment associée à une politique de concentrationnaire, quoi, en plus. Quoi. Mais ça on n'a pas forcément travaillé dessus.
Et donc, en tant que Français, vous êtes plus facilement repérable, donc vous êtes senti surveillé ou il y avait
alors, étonnamment, policiers chargés de... Ils s'en fichent. C'est-à-dire que je pense que les touristes sont pas du tout... Enfin, ou les étrangers sont pas du tout la menace. Le sujet, c'est vraiment l'encadrement, le contrôle ou la surveillance de l'ethnie du peuple ouïghour. Et du coup, bon, nous, évidemment, il y a tout un tas de contrôles partout. Mais sincèrement, c'est pas... Alors, il y a quand même des systèmes où, évidemment, si vous allez pas... Enfin, au Xinjiang, vous avez seulement une auberge par ville qui est agréée pour accueillir des étrangers. Vous êtes obligé d'aller là, mais vous pouvez quand même réussir à dormir un peu dehors ou chez les gens en étant discret. Globalement, la surveillance, elle est pas trop à l'encontre. Elle est pas trop à l'encontre des étrangers, en fait. Elle est vraiment à l'encontre du peuple local. Et d'ailleurs, vous avez aussi des systèmes un peu ridicules de milices. Où du coup on demande en fait, enfin, je sais pas quel est exactement le système, mais de fait en vous baladant dans la rue, vous avez des milices ouïghours qui se surveillent donc eux-mêmes quoi et qui patrouillent. Et bon, a priori, comme les familles ouïghours ont pas l'air d'avoir très envie d'envoyer des gens dans la milice, c'est que des fillettes ou des vieillards qui marchent avec une batte de baseball sur le bras, c'est un côté un peu ridicule. Et un peu dans le même esprit, tous les commerçants, par exemple, dans certaines villes, sont obligés de porter un gilet pare-balles, un casque et ont une espèce de panoplie antiterroriste, alors que c'est des commerçants ouïghours. Donc, de toute façon, a priori, ils ne vont pas forcément se faire attaquer par leurs propres cousins.
Ah, c'est vrai pour tous les commerçants. Donc, quel que soit leur commerce, c'est pour se protéger. Et...
Exactement. Donc, par exemple, vous allez à la boulangerie, et ben, votre boulanger, il va avoir un casque, un gilet pare-balles, et puis dans un coin de sa boutique, il y a un grand bouclier, et puis une matraque.
D'accord. Donc, ils sont prêts à affronter émeute ou attentat.
À s'affronter eux-mêmes, surtout. C'est ça qui est un peu ridicule. Et vous pouvez avoir une vieille grand-mère qui vous sert de la soupe avec un casque trop grand qui lui cache le visage. Enfin, c'est un côté aussi un peu lunaire, quoi. Donc, il y a à la fois un côté ridicule, c'est-à-dire que vraiment, ces espèces de fausses milices où c'est des vieillards qui patrouillent, c'est absolument ridicule. Et puis, en même temps, un côté un peu terrifiant sur le degré de contrôle et de surveillance.
Au Xinjiang, vous faites également mention de la frontière, qui est une frontière très, très classique en géographie, très ancienne, entre le riz et le blé. Et on le voit notamment dans l'alimentation. Alors, vous évoquez... plusieurs fois les plats que vous avez consommés, ça permet aussi de tisser les frontières culturelles, de voir quels sont les aliments utilisés. Ça, au Xinjiang, vous l'avez vu, cette question culturelle, justement ?
Oui, c'était pour nous extraordinaire, parce que justement, en basculant, donc on avait dû passer, je ne sais pas, 4 ou 5 mois dans le monde du riz, quoi, dans des cultures, disons, vraiment asiatiques, je ne sais pas si c'est le bon terme, et en arrivant au Xinjiang, donc on arrive en train de nuit, on traverse un désert, et puis en arrivant le matin, ça y est, j'ai presque dire c'est l'Europe, quoi, au sens où vous avez des faciès complètement différents, beaucoup plus métissés, il va y avoir des yeux bleus, il va y avoir des gens avec des visages beaucoup plus clairs, des formes de visage indo-européennes, quoi. Et puis tout d'un coup, c'est des pâtes, du pain, de la viande, etc. Et c'est vrai que là, sur des petites perceptions du quotidien, en une nuit, vous n'êtes plus du tout dans le même monde. C'est-à-dire que vous passez vraiment du monde chinois à un monde qui est beaucoup plus proche de nous, même s'il est géographiquement très loin, mais on sent que culturellement, il y a une proximité, peut-être, je ne sais pas si le terme est indo-européenne, mais en tout cas, il y a vraiment... Et puis, vous revenez sur des modes de vie, des constructions, des aliments, etc., qui sont beaucoup plus proches de l'Europe et qui ont été influencés, en fait, probablement par les routes de la soie pendant des années et des années.
Vous faites référence également à la présence de vignes, enfin, de feuilles de vignes. Je ne sais pas si on boit du vin, ou en tout cas, la vigne est présente.
Oui, quand vous arrivez au Xinjiang, notamment à Turpan, là, au Tulufan, comme disent les Chinois, il y a partout des vignes, partout des melons. Enfin, vous avez énormément de fruits et légumes. Du coup, c'est extraordinaire quand vous arrivez de l'Himalaya, que vous avez passé plusieurs mois en Himalaya ou dans la partie montagneuse du Vietnam, du Laos, et puis des marches tibétaines. Tout d'un coup, c'est l'espèce de profusion de nourriture, de fruits, de légumes, de soleil. Il y a un côté vraiment extraordinaire.
Au Tibet, vous évoquez les œufs durs qu'on vous a offerts très gentiment, mais enfin, on comprend que ça devienne un peu lassant, une sorte de soupe qui a l'air aussi bizarre et pas forcément très attirante.
Oui, alors ça, c'est dans une partie donc, dont je disais un mot tout à l'heure, que les gens appellent les marches tibétaines. En fait, c'est dans la zone, disons, culturelle tibétaine, mais c'est pas dans l'État ou dans la région administrative tibétaine. Et du coup, ça permet d'être un peu plus libre, parce que si vous voulez rentrer dans la partie tibétaine officielle, vous êtes obligé d'être avec un guide, etc. Donc, on s'est plutôt promené dans ces coins-là. C'est donc des coins qui sont, en fait, à la frontière entre la Chine, la Birmanie, et puis le nord-est de l'Inde, la petite partie de l'Inde, l'oreille de l'Inde, qui se réouvre complètement au nord-est, pour ceux qui voient. Et en fait, c'est une zone qui est extraordinaire parce que bon, elle est très en marge de la Chine, elle est très compliquée, très longue d'accès. Et c'est là où s'étaient installés des missionnaires des MEP qui voulaient convertir le Tibet et ne pouvant pas s'installer au Tibet lui-même, ils s'étaient installés dans cette espèce de base arrière. Et où du coup, il y a des petites communautés chrétiennes tibétaines qui en fait avaient été donc converties au 19e siècle et au début du 20e siècle. Tous les missionnaires avaient dû partir avec l'arrivée de Mao au pouvoir. Et en fait, plus personne n'avait d'informations sur eux jusqu'à il y a, je pense, 20 ans, 15-20 ans. Et il y a un Français qui s'appelle Constantin Slizevich qui avait entendu parler de cette histoire par son oncle qui était évêque des MEP. Et qui, du coup, en fait, s'est dit « Bon, allez, je vais aller voir s'il y en a encore. » Qui est retourné là-bas, qui s'est rendu compte qu'il y avait encore des communautés chrétiennes que personne, qui n'avaient aucun contact avec personne. Et du coup, on était tombé sur son livre ailleurs pendant notre voyage dans la bibliothèque d'un missionnaire et on s'est pointé là-bas et du coup c'est vrai que vous avez encore de façon complètement perdue, ça doit être 7, 8, peut-être 10 villages avec leur petite église où là il y a des grosses tensions politiques donc avec le gouvernement chinois parce que c'est donc comme je disais un peu le double défaut quoi, d'être tibétain plus d'une minorité religieuse et donc c'est vrai que là on était très bien accueillis parce que en fait, dès que vous avez un occidental qui arrive, en plus un Français, il l'identifie un peu aux anciens missionnaires des MEP, donc il y a vraiment un accueil qui est extraordinaire. Mais en fait, c'est un peuple qui, a pas grand-chose pour se nourrir, qui est assez alcoolisé et qui du coup transforme en gros toutes ses récoltes en alcool et qui fait du coup une délicieuse soupe qui est en fait c'est servi chaud fumant, donc on a l'impression que c'est une soupe et en fait c'est de l'alcool à je sais pas 40-50 degrés qui est servi chaud avec dedans un peu de nourriture, donc soit des œufs, soit des cuisses de poulet. Voilà, c'est assez surprenant au petit-déj. Et en fait, assez souvent, ils se retrouvent à manger que des œufs. Et ça, il y a déjà justement les récits des missionnaires qui racontent ça, donc ça n'a pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Parce que globalement, ils utilisent toute leur récolte pour faire de l'alcool et après, ils ne mangent plus que des œufs.
Bon, et ben, comme quoi les permanences dans l'histoire des siècles en siècles. Vous avez évoqué l'Inde et donc les deux régions de l'Inde que vous avez visitées. Là aussi, on a des différences assez importantes de manière géographique, en matière de peuple également, et d'occupation humaine.
Oui, alors donc, comme je disais, on n'a pas été du tout dans l'Inde indienne. Les deux coins où on a été, c'est la partie, disons, du Cachemire, qui est dans la région de Jammu et Cachemire, donc qui est vers le Cachemire. Mais en fait, en gros, vous avez le Cachemire et le Ladakh que les gens connaissent, et puis entre les deux, il y a sorte de longue vallée qui s'appelle le Zanskar, et qui est de culture pareille, disons, tibétaine. Donc, ils sont officiellement bouddhistes, mais en fait, on se rend compte que beaucoup de bouddhistes sont en fait animistes. Donc là, ils sont, disons, bouddhistes animistes, quoi, ou de la religion antique himalayenne. Enfin, ou disons, bön, bref, peu importe. Mais donc, on a été dans cette partie-là. Et donc là, on a plutôt l'impression de se balader, en fait, dans ce qu'était probablement le Tibet. Donc c'est que des monastères qui sont à 5000 mètres ou à 4000 mètres, Nous, on a marché 3 semaines, en fait, pour traverser une vallée où il y a une route, une piste au milieu, quoi, pour sortir si on veut. Et donc, c'est un endroit absolument passionnant parce que vous avez tous les effets de l'éloignement géographique, quoi. Donc, le fait que vous soyez obligé de pas trop vous spécialiser économiquement parce que il y a, alors là, justement, il y a une politique indienne qui est de construire progressivement une route. Donc, ça va progressivement désenclaver la vallée et complètement modifier les modes de vie. Mais là, il faut encore marcher, aller au moins 5 jours pour aller faire des courses. Donc, avant, c'était plus parce que la piste avance progressivement. Mais rien que 5 jours à pied pour aller faire des courses ou pour aller au collège ou pour aller chez le médecin, bah forcément, ça structure un mode de vie. Et du coup, vous avez vraiment un exemple extraordinaire d'analyse de comment arrive le marché, comment se développe un endroit, qu'est-ce qui se passe, en fait. Comment on fait pour que la modernité arrive quelque part ? Et en fait, apparaît très clairement que à cet endroit-là, la modernité est un projet politique. C'est-à-dire que vous avez la volonté politique, pourquoi pas, hein, mais vous avez la volonté politique de construire une route qui permettra en fait de faire arriver des marchandises, de faire arriver de l'électricité. Et du coup, c'est à partir de là, évidemment, quand vous avez des marchandises, vous vous spécialisez économiquement parce qu'il y a des choses beaucoup moins chères que ce que font vos artisans. Et ça a déjà commencé là-bas. Hein. Comme on n'est qu'à 5 jours de marge d'un magasin, ça a déjà commencé. Et puis après, disons qu'on peut considérer que vous vous spécialisez économiquement puis que vous vous uniformisez culturellement. Parce qu'avec l'électricité, vous avez l'information qui arrive et puis avec la route, vous avez les marchandises.
Et donc, oui, ce que vous montrez, c'est une sorte d'histoire en acte, de ce qu'on a connu d'ailleurs en France, même principe, dans les provinces qui ont été désenclavées au fur et à mesure. Et là, on est en train de le voir sur les contreforts himalayens.
Exactement. Et du coup, c'est vraiment des exemples analytiques extraordinaires pour essayer de... Parce qu'en fait, nous... Dans notre pays, évidemment, le marché, la modernité, etc. sont tellement développés que c'est beaucoup plus difficile d'identifier les sous-jacents très puissants de ces mutations-là. Et quand vous êtes sur des exemples, que ce soit des nomades au Kyrgyzstan, donc ces peuples tibétains au nord de l'Inde, ou plein d'autres exemples comme ça, on est tellement aux prémices de la mutation qu'elle est beaucoup plus facile à analyser, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, pour répondre pardon, à votre question tout à l'heure, donc ça, c'était la partie du nord-ouest de l'Inde, donc un peu Cachemire. Et puis, on a aussi été tout au nord-est, donc il y a une partie qui est collée à la Birmanie, donc en fait, où l'Inde se rétrécit puis se réouvre, et qui est passionnante parce que, pareil, en fait, c'est un coin, comme globalement, toutes les frontières sont fermées dans cet endroit-là, c'est un coin qui est assez difficile d'accès encore aujourd'hui, il y a des conflits, etc. Et du coup, vous avez, pareil, espèce de spécificité culturelle extraordinaire où, bah là, typiquement, vous avez pas mal de tribus où jusqu'à il y a peu, tout le monde se tatouait le visage. Vous avez donc des rites animistes qui sont super originaux, etc. C'était passionnant.
Et ces populations, comment sont-elles perçues par le pouvoir central ? Est-ce qu'il y a une volonté de les intégrer par peur d'indépendantisme ou est-ce qu'on les laisse tranquilles et que la capitale ne regarde pas trop ?
Ah oui, il y a une volonté claire d'intégration, d'uniformisation, en tout cas d'intégration. Typiquement, sur les peuples là, du Nord-Est, on a notamment été dans un peuple qui s'appelle les Zapatani. Et encore une fois, eux, en fait, disons qu'il y a deux, il y a plusieurs aspects dans l'intégration, mais il y a eu deux choses très fortes. C'est le fait d'aller au collège, parce qu'en fait, l'école était sur place, donc à la limite, l'école, la tribu restait en elle, mais au moment d'aller au collège, les jeunes étaient envoyés à la ville. Et donc, typiquement, le fait d'avoir des tatouages faciaux, en gros, ils se faisaient traiter de barbares et de sauvages par tout le monde. Et en fait, ils ont arrêté typiquement cette pratique à cause de ça. Parce qu'ils se disaient, quand nos filles vont au collège, ça se passe pas bien à cause de ça, arrêtons. Puis en plus, là, typiquement sur cette tradition-là, maintenant, c'est interdit. Mais donc, vous avez ça. Après, il y a aussi des enjeux militaires. C'est-à-dire que pour l'Inde, il y a des enjeux de maîtrise de ses marges et de tensions avec les voisins. Donc, en plus, il y a cet aspect-là. Et après, c'est quand même des coins où ce qui est très intéressant, c'est, disons, la pression religieuse ou le fait que vous ayez aussi beaucoup de... Ouais, on peut dire beaucoup de missionnaires étrangers, pas mal de missionnaires évangélistes, donc chrétiens évangélistes, qui est aussi évidemment un facteur de changement très très fort, quoi.
Et donc cette présence christianisation, notamment, entre aussi en conflit avec les cultures qui sont présentes. On peut supposer que s'il y a changement de religion, il y a aussi changement culturel, donc changement de mode de vie.
Exactement. Et en fait, c'est ce qui était très intéressant là-dessus, c'était la variété extrême des pratiques, c'est-à-dire qu'entre les différents missionnaires que nous on a pu voir ou les différentes tribus qui ont été converties soit au catholicisme soit à différentes différentes églises chrétiennes, il y avait vraiment de tout et rien. C'est-à-dire que vous avez parfois des politiques de la part des missionnaires qui sont d'essayer de raser la culture. Alors ça semble être le pire entre guillemets avec les baptistes, mais vous avez aussi des missionnaires catholiques qui font ça, où là il y a une volonté d'embrasser la modernité dans un sens total et considérer que c'est à la fois un mode de vie, une façon de travailler et puis une religion. Là-dessus, vous avez un bouquin d'un anthropologue qui s'appelle Maurice Gaulier qui s'intitule « Suivre Jésus et faire du business ». Et en fait, c'est simplement, donc lui, il travaillait en Océanie, mais il avait demandé une fois à un papou avec lequel il travaillait, enfin un barouya avec lequel il travaillait, pour lui, qu'est-ce qu'était la modernité. Et l'autre lui avait dit, tu sais très bien ce que c'est la modernité, Maurice, c'est suivre Jésus et c'est faire du business. Donc c'est vraiment les deux. Il y avait, dans cette logique, vous avez la conversion religieuse et puis vous avez la conversion économique, quoi. Donc parfois, vous avez ces exemples-là. Et puis parfois, il y a des syncrétismes qui font que la culture semble réussir à survivre, alors qu'on pourrait imaginer que quand on enlève le sous-jacent intellectuel, à savoir le fait d'avoir une pensée purement animiste, est-ce qu'on continue à faire les rites, il y a des coins où en tout cas vous avez vraiment un espèce de mélange entre le christianisme et l'animisme, notamment en Birmanie où on y a été quand le pape François était là, et rien que visuellement vous aviez toutes les ethnies étaient avec leurs tenues traditionnelles, donc déjà rien que ça c'était un fait. Et ensuite quand on a été dans certaines marches birmanes, vous avez des endroits passionnants où les gens se disent mixtes, c'est-à-dire que par exemple vous croisez un chaman avec une croix, donc vous lui demandez t'es animiste ou t'es chrétien, et il nous dit mixte. Quand j'ai un petit problème, je fais intervenir l'esprit de ma grand-mère ou l'esprit d'un lieu, et puis quand j'ai un très gros problème, je fais intervenir l'esprit saint, quoi.
Mais ce changement de religion et l'intégration dans une zone économique, c'est quelque chose qu'on a aussi déjà vu dans l'histoire. Je pense notamment à l'expansion de l'islam, où pour beaucoup de populations, notamment sud de l'Inde et asiatiques, Indonésie ou Malaisie, la conversion à l'islam était une manière aussi de s'intégrer dans cet espace économique marchand, ce qui explique d'ailleurs en partie l'expansion de l'islam dans le monde asiatique. Donc on voit aussi comment la question culturelle n'est pas que culturelle, elle est aussi économique, ou elle est aussi l'intégration dans un espace d'échange politique ou de marché qui est beaucoup plus grand.
Oui, et il y a toujours des débats sur les raisons de ces conversions. Par exemple, en Inde, on avait beaucoup de retours comme quoi c'était les intouchables qui se convertissaient le plus à d'autres types de religions. Là, vous pouvez considérer qu'il y a évidemment un intérêt matériel et politique. Vous avez aussi des coins, typiquement là, dans les marches tibétaines dont on parlait tout à l'heure, où, en fait, historiquement, quand il y avait un lien entre l'endettement et la dépendance politique. Et quand, en fait, les villages se convertissaient au christianisme, au début, les missionnaires remboursaient les dettes du village. Donc, vous avez eu des exemples de villages qui sont tous convertis. Comme ça, on a remboursé toutes leurs dettes et puis après, ils sont déconvertis. Enfin, je sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, ils sont revenus à leur religion originelle. Et puis là, aujourd'hui, vous avez aussi pas mal d'endroits où les gens considèrent que leurs camarades veulent plus forcément être animistes parce que c'est très coûteux, parce que vous avez tout un tas de sacrifices d'animaux qui sont assez coûteux pendant les événements, etc. Et du coup, assez souvent, en effet, on entend parler de motivations, disons, plus matérielles. D'imbrication, et c'est logique, entre le spirituel et le matériel, c'est pas absurde. Ouais.
Alors on va terminer cette émission en allant vers l'ancien espace indochinois français, Laos, Vietnam, où vous êtes passé aussi. C'est pas la fin de votre voyage, mais c'est un moment où vous êtes passé. Alors, Laos est un des pays peut-être les plus enclavés, alors déjà physiquement enclavé, puisqu'il n'a pas d'accès à la mer, contrairement à ses voisins, mais c'est aussi un pays dont on parle assez peu et qui n'est pas dans les grands espaces chinois ou indiens. Qu'est-ce que vous avez pu voir sur place de cet enclavement laotien et du rapport aussi avec les populations locales?
Alors, le Laos, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment absolument hors du temps. C'est pas juste une impression de touriste qui passe ou autre, mais moi j'avais fait en fait un stage à l'ambassade de France au Laos, du coup ça devait être il y a 10 ans maintenant. Et donc, j'y suis retourné là, il y a trois ans pour ce voyage. Et ce qui était extraordinaire, par rapport à plein d'endroits où on avait été 5 ans avant, 7 ans avant, 8 ans avant, il y a une espèce d'inchangé qui est magique. Et c'est-à-dire que dans la capitale, par exemple, vous aviez le même mendiant au même endroit que 7 ans plus tôt, quoi. Moi, j'avais fait un travail, en fait, à l'époque, sur la prostitution à Vientiane. Et typiquement, dans les bars en question, vous y retournez, il y a près de la moitié des femmes qui n'ont pas changé. Enfin, il y a une espèce de permanence, comme si tous les changements du monde leur passaient complètement au-dessus de la tête. Et du coup, vous avez ça qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous le reliez, évidemment, avec des récits historiques des explorateurs qui y étaient et qui ont exactement la même impression au 19e. Et donc, qui vous expliquent qu'ils ont l'impression que les Laotiens, ils sont super tranquilles, qu'ils travaillent pas, etc. Et là-dessus, il y a vraiment une espèce de sagesse qui est assez étonnante. Donc, typiquement, vous arrivez dans un restaurant et la personne a pas envie de travailler, a pas envie de vous servir, elle soupire, puis elle vous demande d'aller dans celui d'en face, quoi. Moi, je connaissais bien plusieurs personnes qui dirigeaient des hôtels au Laos. Et dès qu'en fait, leurs employés avaient accumulé assez d'argent, ils partaient. Et puis, ils revenaient un an plus tard, quand ils avaient accumulé assez d'argent pour vivre tranquille pendant un an, ils partaient, et puis ils revenaient après. Donc, il n'y a aucune accumulation, par exemple. Et puis, si on les augmente, ils partent encore plus vite parce qu'ils ont atteint encore plus tôt le capital dont ils ont besoin pour ne pas travailler pendant un an. Donc, il y a cette espèce de fonctionnement hyper étrange, hyper original. En même temps, c'est un régime très, très dur. C'est-à-dire que ça se voit assez peu pour les gens qui passent rapidement, mais le peu d'opposants sont enfermés. Il y avait un opposant un peu militant sur des sujets d'expropriation, etc. Il a disparu il y a quelques années. Il y a un tout petit groupe de rebelles laotiens qui datent de hyper longtemps, de la guerre du Vietnam, je crois, qui sont dans une jungle qui est complètement inaccessible et qui avaient envoyé un appel au secours il y a un an ou deux en disant qu'ils allaient bientôt être exterminés. Enfin, en fait, c'est un régime extrêmement dur, avec une population très tranquille. Du coup, ça se voit pas forcément, mais de ce point de vue-là, c'est passionnant. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous aviez, ça devait être au 19e, un explorateur qui expliquait que les Laotiens, en gros, avaient un peu réduit en esclavage certaines tribus, et puis qu'il avait bien peur que ça soit pareil de la part d'un voisin envers le Laos, vu à quel point les Laotiens étaient déjà tranquilles à l'époque. Et c'est quand même plus ou moins ce qui est en train de se passer avec la Chine, on peut considérer qu'il prend vraiment possession des lieux, qu'il prend possession de beaucoup de réseaux économiques et qui est en train de construire surtout un TGV en fait entre Kunming et Vientiane, donc entre une grande ville du sud de la Chine et la capitale laotienne. Et on peut quand même considérer que le jour il y aura un TGV qui reliera le pays à la Chine. Bon, bah globalement le pays sera intégré quasiment totalement à l'espace chinois.
Le voisin vietnamien, lui, c'est complètement l'inverse, c'est extrêmement de profusion, d'activité, de développement aussi.
Oui, il y a une espèce de dynamisme qui n'a rien à voir entre le Laos et le Vietnam. Après, ce qui est quand même intéressant d'un point de vue plus ethnologique dans ces deux pays-là, c'est que quand vous allez dans les montagnes, vous avez encore beaucoup d'ethnies qui portent leurs costumes, qui ont l'air d'être très fiers de leur spécificité culturelle. Et ça, au Vietnam, c'est super intéressant parce que a priori, il y a eu une politique de promotion de la diversité culturelle, probablement pour des raisons touristiques, mais qui fait que l'uniformisation qu'on voit par exemple en Inde ou en Chine, elle n'a pas forcément lieu au Vietnam parce que voilà, vous avez tout un tas d'endroits où les gens portent leurs tenues. Alors, c'est des tenues qu'on modernise, c'est des tenues qu'on rend plus simples. Les petits groupes ethniques se dissolvent dans les grands. Les motivations évidemment changent, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu moins de la fierté ou de l'habitude culturelle et un peu plus du calcul. Politico-économique, quoi, le fait d'assumer ses spécificités. Mais là, il y a des trucs culturels et économiques qui sont super intéressants dans ces zones.
Et puis, vous évoquiez l'intégration du Laos dans la Chine. En fait, c'est un petit peu... ce qu'on voit à travers votre ouvrage, c'est qu'il y a une sorte d'expansion chinoise, à la fois à l'intérieur de leurs frontières, notamment au Xinjiang, mais aussi à l'égard de ses voisins. On a l'impression d'une dilatation de l'espace chinois qui fait usage notamment des infrastructures de la route de la soie et autres pour s'approprier les pays, en faire des sortes de protectorats, pas des colonies parce qu'elles ne sont pas envahies, ils restent indépendants, politiquement indépendants, mais en tout cas ils sont intégrés au vaste espace chinois.
Oui, c'est le grand sujet partout, hein, les gens en parlent énormément, en Birmanie, se plaignent beaucoup de ça, donc au Laos c'est vraiment visuel. Quand vous allez par exemple au Kyrgyzstan, la totalité des marchandises, là c'est plutôt économique, quoi. En tout cas visuellement c'est économique, à savoir que la totalité des marchandises sont évidemment chinoises. Vous avez beaucoup de camionneurs chinois qui traversent le pays. Et c'est vrai qu'on voit vraiment une sorte d'influence progressive qui passe par plein de canaux. Évidemment, la puissance économique, le fait en fait de pouvoir déverser des biens industriels dans toute l'Asie, partout, quoi. Et puis, pour les voisins plus proches, un aspect d'intégration plus forte avec beaucoup plus de présence. Donc, par exemple, au Laos ou en Birmanie, il y a une présence de la population chinoise qui est assez marquée. Par exemple, au Laos, ça explose littéralement. À Vientiane, ils sont en train de construire un très grand quartier pour loger la totalité des expatriés chinois sous peu. Par exemple, à Phnom Penh, pareil, vous avez plusieurs quartiers qui sont en train d'être construits pour loger les Chinois. Et du coup, disons que c'est avec des outils différents ou des courroies de transmission différentes, mais oui, le grand sujet de la zone, c'est la montée en puissance de la Chine.
Merci beaucoup, Jean-Antoine Schurer, d'avoir évoqué pour Conflit ces éléments de voyage. C'est une partie de ce que vous avez pu vivre au cours de ces 18 mois de voyage. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Entre les plis du monde, chronique sur les hauteurs de l'Asie », qui est paru chez Alizio. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro qui est actuellement en kiosque, qui est consacré à l'Afrique de l'Ouest, et puis notre hors-série géopolitique de la santé. Et puis vous pouvez également vous abonner. En vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer, de continuer son développement, et de continuer également à vous proposer ces émissions en accès libre. C'est cette semaine la 200e émission. Alors j'espère qu'il y en aura 200 autres de plus. Mais en vous abonnant, vous permettez ainsi à Conflit de vous proposer ces contenus en accès libre. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de notre série consacrée à l'Asie.